8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Nous allons bien sûr évoquer les dossiers importants que vous portez en tant que ministre du Travail, mais tout d'abord, après avoir témoigné dans Le Parisien, c'est la première fois que l'on vous entend, que l'on vous retrouve dans un studio suite à votre hospitalisation. Vous avez malheureusement été infectée par le variant sud-africain. Comment allez-vous aujourd'hui ?
Écoutez, ça va mieux, hein, je vous remercie. Je pense que je vais avoir besoin de temps pour retrouver ma condition physique d'avant. Et moi, je voudrais dire à ceux qui pensent que ce virus, finalement, c'est pas si grave, que cette maladie, elle vous laisse pas indemne. Et je pense que, comme beaucoup de Français qui ont été touchés par le virus, j'ai été très secoué, très secoué.
Vous le dites, hein, comme de très nombreux Français qui luttent en ce moment. Vous êtes passé par des moments difficiles. Vous avez même dit angoissant. Qu'est-ce qui a été le plus angoissant ?
Écoutez, ce qui est angoissant, c'est que les soignants vous le disent, hein, finalement, chacun réagit à sa façon. Donc, il est imprévisible, ce virus. Pour moi, il a touché les poumons, donc vous avez une gêne respiratoire. Et puis, à un moment donné, j'arrivais plus à m'alimenter ou à boire. Et à un moment, on se dit, mais tout se détraque, est-ce qu'on va s'en sortir ?
Comment vous avez été prise en charge, Madame Borne ? Est-ce qu'on vous a administré un traitement particulier une fois hospitalisée ?
Non, je pense que j'ai eu le traitement de tout le monde. Moi, j'ai été placée sous surveillance médicale parce que j'ai une partie des poumons qui est affectée par le virus. Et puis, comme je vous dis, j'arrivais plus à manger et à boire, donc j'ai été perfusée. Et puis, ponctuellement, j'ai été aussi oxygénée. Donc, je pense que c'est le traitement de tout le monde.
Et vous ne savez toujours pas comment vous avez pu contracter ce variant sud-africain qui, rappelons-le, est quand même extrêmement rare, et notamment en Île-de-France.
Je vous confirme que je ne sais pas.
Malgré les précautions que vous prenez, comme beaucoup de Français.
Voilà, je peux vous dire que je fais très attention. Moi, j'en retiens, et je pense que je voudrais aussi le dire à vos auditeurs, que plus on peut réduire les interactions, et mieux ça vaut, puisque manifestement, même quand on fait attention, il y a forcément des moments où on a été moins vigilant et où on peut attraper le virus.
Alors, on pense bien sûr à tous ceux qui luttent en ce moment contre l'épidémie, dont aussi votre collègue Roselyne Bachelot, des médecins, des chefs de réanimation. Elisabeth Borne demande un confinement strict, évoquant un tri entre les patients. Vous n'avez pas vécu cela, parce que c'est malheureusement peut-être un scénario noir, mais vous avez vu aujourd'hui cette tension hospitalière, ce dévouement des soignants au quotidien ?
Moi, je voudrais vraiment rendre hommage aux soignants, enfin, vraiment leur dire toute ma reconnaissance et mon admiration sur la façon dont ils m'ont accompagné, mais la façon dont ils accompagnent les Français depuis un an. Moi, j'entends leur inquiétude face au risque d'avoir effectivement une vague très forte de cette épidémie. Je voudrais leur dire que vraiment, le président de la République, le gouvernement est très attentif à la situation et qu'on n'hésitera pas.
Mais il demande plus. Il
demande plus. On n'hésitera pas, si la situation le nécessite, à prendre des mesures plus restrictives pour casser la dynamique de l'épidémie et pour protéger aussi nos hôpitaux et nos soignants.
Bien sûr, c'est intéressant d'avoir votre double regard, à la fois de ministre au sein de l'Action, mais aussi vous êtes passé par cela. Est-ce que c'est du temps perdu aujourd'hui quand le président justement se laisse du temps sur un éventuel confinement strict et global ?
Mais vous savez, il y a aussi des conséquences catastrophiques d'un confinement. Il faut avoir en tête l'impact que ça peut avoir pour nos enfants, par exemple, quand ils ne peuvent plus aller à l'école, l'impact que ça peut avoir pour notre économie, pour nos emplois. Donc il faut trouver le meilleur équilibre, mais je peux vous dire que vraiment le président de la République et le gouvernement sont évidemment très attentifs à ce qu'on ne soit pas débordé par cette épidémie et qu'on prendra les mesures qui sont nécessaires en fonction de la situation.
Vous avez parlé tout à l'heure de limiter les interactions sociales, Elisabeth Borne. Attendant, vous appelez à renforcer le télétravail avec désormais des contrôles et des sanctions pour les entreprises réticentes. Mais pour quel impact ? Les entreprises, elles ne l'appliquent pas, en tout cas certaines, et une majorité peut-être ne l'appliquent pas aujourd'hui de manière pérenne.
Alors vraiment, je voudrais dire plus que jamais que j'invite tous ceux qui le peuvent à être en télétravail. Oui. C'est une façon d'éviter de se contaminer.
Mais inciter ne suffit pas.
Mais on n'est pas dans l'incitation. Moi, je veux être très clair, c'est une obligation. C'est une obligation. Il y a une obligation de l'employeur de protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète de cette obligation, c'est ce qui est inscrit dans le protocole sanitaire en entreprise. Il faut faire du télétravail dès que c'est possible. Il y a beaucoup d'interventions des services de mon ministère, notamment de l'inspection du travail, 26 000 interventions depuis le début de l'année. D'abord pour accompagner, pour conseiller les entreprises, mais aussi pour les contrôler et pour les sanctionner. Donc je le redis, c'est une obligation de recourir au maximum.
Qu'on comprenne bien, madame la ministre, c'est une obligation, mais ce n'est pas dans une ordonnance. Ce n'est pas écrit noir sur blanc et ça n'a pas un caractère obligatoire via une ordonnance aujourd'hui.
En fait, le Code du travail oblige l'employeur à protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète, c'est ces règles qui sont dans le protocole sanitaire en entreprise qui demande à l'employeur, aux salariés, de faire, dès que c'est possible, du télétravail.
Alors désormais, dans les écoles, les classes ferment au premier cas de contamination détectée. Ce sont d'ailleurs des fermetures en cascade. Et les parents, est-ce qu'ils pourront donc bénéficier d'arrêts de travail pour garder leurs enfants? Et sous quelles conditions?
Alors, les parents, ils peuvent bénéficier d'activités partielles. Si la classe de votre enfant est fermée, vous pouvez demander à votre employeur à bénéficier d'activités partielles. Donc, votre salaire est pris en charge à hauteur de 84%. Vous avez un reste à charge pour l'entreprise de 15%. Ça, c'est le cas si votre enfant a moins de 16 ans et si vous ne pouvez pas télétravailler.
Donc moins de 16 ans et si on ne peut pas télétravailler. Si ça, pas c'est les deux conditions sine qua non.
Absolument. Et donc, voilà, ce dispositif, il est en place. Donc, ceux qui sont effectivement en difficulté parce que la classe de leur enfant est fermée peuvent le demander à leur employeur.
Et vous allez être amené à l'élargir parce que là, les fermetures de classe, c'est assez incroyable. Ça se multiplie sur le territoire. Alors, et notamment en Île-de-France.
Effectivement, on applique maintenant une règle très stricte. Dès qu'il y a un cas, la classe ferme. Et donc la conséquence, c'est effectivement qu'il va y avoir des parents qui vont devoir rester chez eux pour garder leur enfant, qui ne peuvent pas nécessairement télétravailler et donc qui peuvent être placés en activité partielle.
Mais franchement, ça ne serait pas plus lisible s'il y avait une fermeture globale des écoles avant les vacances?
Ben, vous savez d'abord qu'on n'écarte rien, mais qu'en même temps, pour nos enfants,
les
on a déjà
vous allez
vu
me dire.
Les dégâts au printemps. Donc c'est très important de maintenir quand c'est possible, si c'est possible, le fonctionnement des classes, de permettre à nos enfants de continuer à apprendre. Mais je vous dis, on va évaluer la situation et on prendra des décisions en conséquence.
Restons, Elisabeth Borne, dans les exemples concrets pour ceux qui nous écoutent, les parents d'élèves inquiets qui doivent s'organiser très rapidement. Une mère célibataire qui touche le SMIC et qui ne peut pas télétravailler, si la classe de son enfant ferme, est-ce qu'elle pourrait être en activité partielle et toucher 100% de son salaire ?
Je vous confirme que quand vous êtes payé au SMIC, alors quand vous êtes en activité partielle, vous touchez 100% de votre salaire. Et si vous ne pouvez pas télétravailler, vous avez le droit d'être en activité partielle.
Très bien. Autre cas pour les non-salariés, indépendants, artistes, professions libérales, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent.
Alors pour les professions libérales, pour les indépendants, c'est le fonds de solidarité qui peut vous accompagner. Ce n'est pas l'activité partielle, mais donc il y a le fonds de solidarité pour vous accompagner.
Bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, malheureusement, pour les premières lignes, qui ne peuvent pas évidemment quitter leur poste, rien n'est prévu. Ils restent à leur poste.
Alors, pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur poste, effectivement, enfin, tous ceux qui de toute façon doivent garder leurs enfants peuvent se mettre en activité partielle. Ensuite, on regardera comment on peut les accompagner pour qu'ils puissent poursuivre leur travail.
Et est-ce que ces premiers de corvée, puisqu'on parle évidemment de la vaccination comme solution, devraient être, selon vous, vaccinés plus rapidement? Et est-ce qu'on devrait prévoir pour ces caissiers, ces caissières, ces premières lignes, une vaccination plus rapide?
Alors, vous savez que tous les soignants étaient prioritaires dans la vaccination et le président de la République l'a dit récemment. À partir de la deuxième quinzaine d'avril, on aura plus de doses et les professions plus exposées seront effectivement prioritaires pour bénéficier de la vaccination.
Mais voyez, vous dites exposées déjà. Est-ce qu'ils ne devraient pas être paradoxalement prises en charge?
Alors,
en
vous
priorité?
Savez, je pense que vraiment, par rapport au printemps, on a beaucoup progressé. Il y a tous ces protocoles
qui s'appliquent. C'est sûr, on est
parti, oui. Il y a tous les ports de masques, toutes les règles qui s'appliquent en entreprise qui permettent de protéger les salariés. Mais je pense qu'on leur doit aussi à ces professions qui ont été plus en première ligne ou en deuxième ligne, on leur doit aussi effectivement de pouvoir accélérer la vaccination.
Alors justement, vous parlez de protection. Sur la réforme de l'assurance chômage qui va entrer en vigueur le 1er juillet, selon les calculs de l'UNEDIC, Elisabeth Borne, plus d'un million de personnes, et non pas 800 000 comme vous aviez prévu, pourraient toucher une allocation mensuelle plus faible qu'avec les règles actuelles. Franchement, dans un tel contexte de crise, c'est le moment?
Moi, je voudrais vraiment dire qu'il est faux de dire que des centaines de milliers, a fortiori plus d'un million de chômeurs, verraient leur allocation baisser au 1er juillet. Il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation baissera début juillet, il y a des nouvelles règles qui se mettront en place progressivement pour les nouveaux demandeurs d'emploi, mais il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser.
Elle va être rabotée pour plus d'un million de personnes.
Pour les nouveaux demandeurs d'emploi, au fur et à mesure, mais je pense que c'est aussi
c'est
une présentation...
Mais ce n'est pas les plus fragiles qui vont devoir payer les conséquences.
Attendez, je pense que c'est aussi une présentation biaisée de ne parler que du montant mensuel de l'allocation. Au total, les droits dont bénéficie un demandeur d'emploi ne baissent pas. Donc si votre allocation mensuelle baisse, vous êtes indemnisé plus longtemps. Et dans la période actuelle, d'être indemnisé plus longtemps, je pense que c'est aussi important. Je peux vous assurer que cette réforme, on en a parlé pendant des mois avec les organisations patronales et syndicales.
Oui, donc
et
vous savez leur opposition.
On vise le meilleur équilibre pour aussi sortir des injustices du système actuel, un système qui n'a pas empêché la précarité, qui a même, au contraire, permis, ou en tout cas qui a laissé faire une explosion des contrats courts et qui a des règles qui sont très injustes, très inégales entre les demandeurs d'emploi. Et je pense que cette réforme, elle est importante pour rétablir, pour à la fois mieux lutter contre cette explosion des contrats courts et avoir plus de justice entre les demandeurs d'emploi.
Pas de changement de plan. Donc merci Elisabeth Borne de nous avoir accordé cet entretien. Bon retour à vous et prompt rétablissement évidemment. Bonne journée également à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27 sur...